Descartes et la médecine. Les commentateurs ont mis longtemps avant de souligner l'importance de la médecine dans l'œuvre de Descartes. Et pourtant, la médecine désigne, avec la mécanique et la morale, la plus haute branche de l'arbre du savoir cartésien. Il s'agit d'un savoir pratique dont Descartes nous explique, dès la sixième partie du discours de la méthode, qu'on pourra tirer le plus grand profit public, la conservation de la santé désignant, selon ses propres mots, le principal bien qu'on peut acquérir en cette vie. Cette branche pratique est ancrée dans des racines métaphysiques et dans un tronc physique, au sens où l'étude du corps humain en tant que corps et de ses variations au cours de son histoire ne requiert pas plus de faire appel à une âme que l'étude de n'importe quel autre corps naturel. C'est ce qu'on a appelé l'application du mécanisme au corps vivant. Corps humain y compris, cette application ayant parfois été comprise comme un réductionnisme qui manquait, ou du moins risquait de manquer, la spécificité du patient humain. Deuxièmement, c'est par la médecine que le cartésianisme a commencé à être enseigné à l'université. En 1638, Henricus Régius devient le premier titulaire de la chaire de médecine et de botanique à l'université d'Utrecht. Il diffuse les enseignements de la cinquième partie du discours de la méthode qui vient tout juste de paraître et des essais scientifiques qui l'accompagnent. Au titre des enseignements importants de cette cinquième partie du discours figure le réinvestissement par Descartes de la découverte de la circulation du sang par William Harvey, médecin anglais, découverte qui est exposée dans le De Motu Cordis, le mouvement du cœur, texte qui est paru en 1628. Descartes est un des premiers à se rallier publiquement à cette découverte. Régius fait en outre soutenir des disputes de médecine à l'université, disputes dans lesquelles il critique de manière beaucoup plus ouverte et violente, polémique, que ne l'avait fait Descartes, les formes substantielles, les qualités occultes des aristotéliciens qui au même moment sont très majoritaires à l'université. Descartes était très au fait des découvertes des médecins de son temps. Il a été lu, discuté par eux, et il a lui-même pratiqué des dissections et été pris pour un médecin, notamment par la princesse Élisabeth, qui lui a souvent demandé des conseils pour se soigner. On va reprendre ces trois points. Concernant la correspondance avec les médecins, il a écrit à Plempius, à Fromondus, à Régius, à Meissonier. Il a discuté les médecins, Sylvius, Wallis, Bézal et les autres. Il s'en est inspiré et a parfois trouvé chez eux la confirmation de ses propres découvertes. Il a été discuté aussi par les médecins. Longtemps après sa mort, son anatomie, comprise comme description des parties du corps, et les fonctions qu'il assigne à ces parties, ont fait l'objet de discussions très serrées. C'est exemplairement le cas de la glande pinéale, puisqu'on peut critiquer non seulement sa localisation dans le cerveau, mais aussi le rôle que Descartes lui assigne, celui d'un passage entre le corps et l'âme. Derrière les questions médicales se jouent ainsi toujours des questions métaphysiques lourdes et plus largement le lien qu'il convient d'établir entre la philosophie et la médecine. Pour les dissections enfin, Descartes a anatomisé lui-même, disséqué des animaux, pratiqué des vivisections, notamment sur des chiens. Et son objet de prédilection, si j'ose dire, c'était les cerveaux de moutons ou les cerveaux de bœufs. Lorsqu'il est allé en Hollande, il s'est installé dans la rue des Bouchers pour disposer de corps frais sur lesquels pratiquer lui-même ses expériences. Car connaître le fonctionnement du corps humain est le seul moyen de le guérir ou de le remettre en santé lorsque celui-ci s'en écarte. Chez Descartes, l'anatomie est toujours fondamentale, mais jamais elle ne supplante la réflexion rationnelle. Plus il progresse dans ses travaux, plus Descartes accorde de l'importance à l'union de l'âme et du corps. L'homme ne se soigne en effet pas comme n'importe quel autre être ou corps de la nature, car il est le seul parmi ces derniers à posséder une âme. On peut développer ce point dans deux directions. La médecine de soi-même et une étude des cas, celui de la princesse Élisabeth. Descartes reprend à son compte la maxime de Tibère, qui prescrit d'attendre l'âge de 30 ans avant de pouvoir espérer devenir son propre médecin. Pourquoi 30 ans ? Pour avoir une durée et une variété suffisante d'expérience pour être à même d'individualiser la norme de santé en fonction de son histoire, de son tempérament, etc. Cet apprentissage chez Descartes commence dès le fœtus. car c'est à ce moment que les passions commencent à être reliées à des expériences. La passion de joie ou la passion de tristesse, à l'absorption d'une nourriture adaptée et en quantité suffisante ou non, par exemple. Et cet apprentissage se poursuit ensuite dans une histoire singulière, dans laquelle on doit savoir tirer profit de ce qui nous convient et éviter ce qui nous nuit. Elisabeth est en effet un cas tout à fait privilégié de mélancolie. Par quoi se caractérise la mélancolie ? Par l'obstruction du corps, notamment de la rate et du foie, par des excès de bile noire. Et quelle est la cause de la mélancolie selon Descartes ? Une passion, la passion de tristesse. Pourquoi ? Physiologiquement, la tristesse se traduit dans le corps par un ralentissement du cours des esprits animaux, de ces petites particules qui composent le sang, et par une augmentation de leur grosseur, si bien que petit à petit, le corps s'obstrue, se refroidit, et que la santé est mise en péril, la vie même est menacée. La mère de Descartes est morte, dit-il, d'un mal de poumon causé par quelques déplaisirs. Comment faire pour se guérir ? Eh bien, mobiliser, dit Descartes à la princesse, des pensées de joie. Pourquoi ? Parce qu'en vertu d'une institution de nature qui établit entre l'âme et le corps des liens étroits, la joie, physiologiquement, se traduit par une accélération du cours des esprits animaux dans le corps, un réchauffement de ce dernier, et donc une désobstruction des organes principaux qui étaient mis en danger par la tristesse. Descartes aime, dans les passions de l'âme, à évoquer l'exemple de ces vieillards qui savent chatouiller leur âme par le souvenir des maux passés qu'ils ont su éviter. On pourrait ainsi se maintenir en santé en entretenant en soi la joie et en chatouillant son âme. En conclusion, il faut souligner la double originalité de la démarche de Descartes. D'une part, il ne sacrifie ni aux exigences de sa métaphysique de la distinction de l'âme et du corps, ni aux enseignements très concrets de l'union de l'âme avec le corps. Deuxièmement, il prend en considération les avancées les plus significatives de la science et le ressenti subjectif d'un patient qui devient l'acteur principal de sa propre santé.